Et c'est le journal d'Alexis de Meyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. Emmanuel Macron fait pression sur les militaires maliens qui ont pris le pouvoir à Bamako. Le président français donne une longue interview au JDD ce matin alors qu'il revient de Kigali et de Johannesburg. Le décryptage de Christian Chesneau dès le début de ce journal. Situation humanitaire inquiétante à la frontière entre la RDC et le Rwanda. La récente éruption d'un volcan a mis des milliers de Congolais sur les routes. Reportage dans ce journal. Et puis la page sport à la fin de ce journal avec la victoire de Chelsea en finale de la Ligue des champions de football. 1-0 face à Manchester City. Le Frenchie N'Golo Kanté est élu homme du match.
Et puis l'invité ce matin à 8h20, ce sera le professeur Didier Houssin. Il est président du comité d'urgence Covid-19 de l'OMS et il publie chez Odile Jacob « L'ouragan sanitaire, comment sortir de la pandémie et préparer l'avenir ».
France Inter.
Une interview fleuve d'Emmanuel Macron dans le JDD ce matin, alors qu'il achève son voyage en Afrique avec des étapes au Rwanda et en Afrique du Sud. Le chef de l'État évoque un certain nombre de dossiers en lien avec ce continent. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Emmanuel Macron lance un appel à la junte au pouvoir au Mali que Paris va observer de très près dans les prochaines semaines.
Oui, c'est un coup de pression sur le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta. Emmanuel Macron met en garde la junte au pouvoir à Bamako contre la tentation de négocier avec les groupes djihadistes présents dans le nord du pays pour acheter la paix sur le terrain. L'islamiste radical avec nos soldats sur place, jamais de la vie, avertit le président français qui ajoute qu'il ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni transition. Emmanuel Macron rappelle dans son entretien au JDD que la France n'a pas vocation à rester éternellement au Mali et que depuis 3 ans, il envisage une sortie des soldats français. Sauf que sur le terrain, l'insécurité dans le nord du pays où opèrent les groupes djihadistes reste grande. C'est un combat de longue haleine, 10 à 15 ans selon le chef d'état-major des armées, François Lecointre. Alors ce carton jaune d'Emmanuel Macron sera-t-il entendu à Bamako? En tout cas, il a aussi fait passer le message aux chefs d'état d'Afrique de l'Ouest qui se réunissent aujourd'hui au Ghana.
Et Christian, Emmanuel Macron évoque aussi l'avenir économique de l'Afrique qui passe selon lui par une réduction de la dette.
Oui, alors pour Emmanuel Macron, la sécurité est la condition du développement sur le continent africain, mais aussi la clé de la question migratoire pour la France et les pays européens. Si cette jeunesse africaine n'a pas d'opportunité économique, alors elle émigrera, explique le chef de l'État. Ce sera un face-à-face avec la Méditerranée pour théâtre, ajoute-t-il. Mais c'est aussi à l'Europe en général et à la France en particulier de clarifier ces règles migratoires qui, selon lui, ne sont plus adaptées aujourd'hui, à commencer par le droit d'asile qu'il juge sacro-saint. Mais dévoyé.
Christian Chesneau, merci. En RDC, une semaine après la violente éruption du Nyiragongo, l'un des plus dangereux volcans du monde, la terre continue de trembler plusieurs fois par jour et les habitants de Goma craignent de nouvelles coulées de lave. Mais malgré l'ordre d'évacuation pour au moins 2 semaines, des habitants commencent à tenter de regagner leur domicile. La crainte de voir les eaux chargées en méthane et en dioxyde de carbone du lac Kivu exploser au contact de la lave est pourtant sur toutes les bouches. Des milliers de Congolais se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière au Rwanda, où se trouvent nos envoyés spéciaux Jérémy Tuile et Claude Guibal.
Il a les yeux figés de celui qui n'a pas dormi depuis des jours. Il y a une semaine, la vie de Joseph Kalumbo a basculé lorsqu'il a dû fuir sa maison et sa ville, Goma, face à la lave dévorante.
L'éruption est arrivée dans la nuit. Tout le monde était surpris. C'est la raison qu'on a perdu tout. On n'a rien.
400 000 personnes ont fui Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Dans le camp de Boussa-Samana, ils sont 1 500 personnes posées dans un creux entre deux collines. Après l'ordre d'évacuation lancé par les autorités de la ville, les pillards se sont attaqués à tout ce qui restait dans Goma déserté. Alors que les secousses ont baissé d'intensité, la majorité des réfugiés en a donc profité pour rentrer chez elles, pour protéger ses biens. Mais pas Claude Kachana, encore traumatisé.
Non. Pour retourner au Congo, il y a encore risque d'explosion de gaz parce que au moins contact de gaz au lac. S'il y a la contact, ça sera une chose terrible.
La menace est donc partout. Le volcan imprévisible, le magma qui s'écoule, ce lac aux eaux chargées de gaz mortel et cette terre qui n'en finit pas de trembler. À Boussa-Samana, Claude Guibal, Jérémy Tuile, France Inter.
En Iran, le français Benjamin Brière, bientôt jugé pour espionnage, son avocat l'annonce à l'instant. Ce touriste de 35 ans avait été arrêté il y a un an après avoir pris des photos avec un drone dans un parc naturel iranien. La justice de Téhéran l'accuse d'espionnage, mais aussi de propagande contre le système politique de la République islamique. La barre des 25 millions de Français ayant reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid a été symboliquement franchie. franchie hier, voilà, qui représente près de la moitié de la population majeure. Alors que le variant indien reste une menace en France à cause de sa propagation chez nos voisins britanniques, on commence à en savoir un peu plus sur sa résistance au vaccin. Selon une étude de l'Institut Pasteur, l'efficacité de Pfizer est légèrement diminuée face au variant indien. Je vous propose d'écouter les explications de l'épidémiologiste Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille.
En effet, c'est légèrement diminué, on passe de 90% à 88%. C'est faible, mais ça témoigne que certaines formes de ce variant indien, puisqu'il en existe trois formes, en particulier la plus fréquente, la forme numéro 2, pourrait avoir un petit phénomène d'échappement au vaccin, ce qui nécessiterait probablement, si jamais ce variant devait se répandre, peut-être d'autres mesures de vaccination, mais surtout actuellement, il faut éviter qu'il se répande, c'est le principal enjeu. Les adaptations des variants, il y en a tous les jours, hein. Il y en a eu plus de 20 000 depuis que les variants existent, enfin qu'on les connaît tout au moins. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il faut stopper cette progression. Et c'est lorsqu'il progresse vite, qu'il se réplique, qu'il peut avoir ces phénomènes d'échappement. Donc la solution, c'est de le bloquer en vaccinant, c'est-à-dire on vaccine les personnes contre les variants actuels, ce qui évite à de nouveaux variants d'apparaître. Donc c'est vraiment une course contre la montre entre vitesse de diffusion des nouveaux variants et vitesse de vaccination.
Le docteur Philippe Amouyel, interrogé ce matin par Ersin Lebovitz. Le déconfinement prend un nouveau visage ce week-end avec la réouverture des terrasses, enfin combinée à une météo clémente. À Rennes, par exemple, il fallait jouer des coudes hier pour pouvoir lever le coude. Les places étaient chères et une fois installées, pas question de quitter sa chaise comme a pu le constater sur la place Sainte-Anne, Morgane Euclin refait.
Des regards qui scannent littéralement chaque terrasse à la recherche d'une table libre.
On a mis au moins 20 minutes pour trouver une place pour s'asseoir.
Ces billets Jean-Michel viennent de s'installer. Première terrasse depuis 7 mois pour ses deux amis.
Il y avait des gens là, ils nous ont dit on part dans pas longtemps, on a attendu à côté. Quoi. Les tables sont chères.
Mais ça sent la liberté un peu de revivre un peu. Quoi.
Guetter le moindre départ et surtout arriver tôt, dès la fin de matinée, presque le seul espoir de pouvoir s'asseoir, explique Maud et Marine.
D'habitude, on sortait plus vers 16-17 heures hein, quand on prenait des verres, mais c'est pas possible. Hein. Les terrasses, elles sont blindées de midi jusqu'à 20h30, donc non, c'est compliqué de trouver des places. Et puis les gens, quand ils ont une table, ils la gardent toute la journée. Enfin, je peux comprendre, c'est ce qu'on va faire, je pense.
Tactique choisie par cette bande de copains.
On est arrivé, il y a des gens qui sont partis. En fait, on est là depuis midi 30. On va faire la fermeture, ouais. On se met bien. On a pris un café au début quand même.
Mais ça risque de coincer quand les autres arrivent.
C'est vrai que quand des amis nous rejoignent ou quoi que ce soit, il y a quand même une petite attente de 10-15 minutes, histoire d'attendre que des gens se lèvent quoi, pour récupérer une chaise.
C'est la guerre des chaises en fait, c'est une nouvelle monnaie. T'sais.
D'habitude, les Rennais arrivent à en réquisitionner une ou deux en milieu de journée, mais cette fois, toutes les terrasses affichent complet.
Reportage signé Morgane Euclin refait de France Bleu Armorique.
À Paris, la réouverture du musée Carnavalet était prévue pour hier. Et bien finalement, ce sera pour ce matin.
Conséquence d'une grève des agents de la ville de Paris qui protestent contre une nouvelle organisation du temps de travail. Le musée Carnavalet, situé dans le Marais, est consacré à l'histoire de la capitale. Il était en travaux depuis 4 ans. La grève d'hier était à l'appel de la CGT, dont Pierre Augros est le représentant pour les musées parisiens.
Le premier sujet, c'est la loi de transformation de la fonction publique qui s'applique aujourd'hui à la ville de Paris et qui va nous conduire en fait à augmenter le temps de travail des agents de la ville, à la fois en remettant en cause le nombre de jours de congé dont nous disposons, mais aussi en remettant en question tout un tas de temps annexes dans la journée et qui donc pourraient nous amener à travailler beaucoup plus que nous travaillons aujourd'hui. Les agents du musée Carnavalet, mais les agents aussi d'ailleurs de l'ensemble des musées de la ville de Paris, souffrent d'un sous-effectif chronique dans leur travail. On demande aujourd'hui aux agents de faire beaucoup plus de missions qu'auparavant. Pour donner un exemple, c'était une 60aine d'agents à Carnavalet avant la fermeture. Ça n'est plus que 36 agents aujourd'hui à l'heure de la réouverture en 2021. Donc en 5 ans, on a perdu quasiment la moitié des troupes. Donc nous maintenons la pression et nous avons prévu de refaire le même mouvement la semaine prochaine et autant de fois qu'il le faudra jusqu'à temps d'obtenir satisfaction.
Pierre Augros de la CGT Paris Musée, interrogé par Yann Gallic. Des files d'attente à prévoir chez les fleuristes ce dimanche. C'est la fête des mères et c'est bien sûr l'occasion pour les enfants de se surpasser en créativité pour surprendre leur chère maman. Hervé Blanchard a tendu son micro à Nialem, Sophie, Gaël et Léo, des jeunes habitants de Belfort.
Moi, j'ai fait plein de cœurs. Franchement, je suis sûre que ça va lui plaire. J'ai prévu des fleurs. Aussi, j'ai prévu un gâteau.
Et un petit mot ?
Oui, avec des rimes. Je t'aime, maman. T'es la reine du monde. Tes yeux sont marrons. Je les trouve mignons. quand tu t'approches de moi, le bonheur vient à la fois.
C'est un pot avec des cœurs dessus, avec du papier de soie,
une espèce de pâte à sel.
Et le deuxième, c'est une espèce de petite carte et dessus, il y a écrit des choses gentilles pour ma main.
Je veux la ramener dans un restaurant et faire plein de choses rigolotes avec elle.
C'est toi qui vas payer ?
Non, c'est mon tonton.
Voilà, et donc, bonne fête maman, à 8h10 sur Inter, c'est l'heure des sports.
And the winner is Chelsea. En finale de la Ligue des Champions hier soir, les footballeurs de l'Ouest londonien ont battu leurs compatriotes de Manchester City. Une victoire 1-0 grâce à un but de l'Allemand Havertz, grâce aussi à l'énorme chantier réalisé au milieu de terrain par le Français N'Golo Kanté, élu homme du match. Olivier Giroud, qui évolue également à Chelsea, a salué après la rencontre l'impeccable performance de son coéquipier.
C'est normal, il est énorme. Il a récupéré 50 ballons. Il leur a fait mal, il est incroyable ce mec, il est incroyable, il court de partout, il fait des différences, il comble des brèches, il récupère des ballons et avec lui, comme on disait à l'époque, on a l'impression d'être 12 sur le terrain, donc là il mérite, je suis vraiment content pour lui.
Voilà qui fait chanter danser Eric Delvaux, c'est un plaisir. Kanté. N'Golo Kanté sur le toit de l'Europe avec Chelsea, Kanté. C'est évidemment aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France à moins de 2 semaines maintenant du début de l'Euro. C'est le Néerlandais Peter Bos qui va succéder à Rudy Garcia sur le banc de l'OL. Le club de foot lyonnais l'a officialisé dans la soirée. Bos a signé un contrat de 2 ans. L'ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a notamment entraîné les équipes de l'Ajax Amsterdam et du Borussia Dortmund. C'est parti pour 2 semaines d'ace, de ce match d'amorti, mais aussi de double faute. L'édition 2021 de Roland-Garros débute à 11h. Sur la terre battue de la Porte d'Auteuil ce dimanche, le tennisman français Jérémy Chardy face à la tête de série numéro 5, le grec Tsitsipas, ou encore la japonaise Osaka numéro 2 mondiale contre la roumaine Tig. La victoire du Stade Toulousain hier soir en clôture de la 25e journée de top 14 en l'emportant 36-27 contre Clermont. Les joueurs de Toulouse ont consolidé leur première place au classement à une journée de la fin du championnat. La Rochelle reste en embuscade après son large succès 51-27 face au rugbymen palois. Hommage à une grande joueuse de handball ce matin dans Esprit Sport. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Cette joueuse Laetitia, c'est Camille Aiglon. Elle disputera tout à l'heure le dernier match professionnel de sa carrière.
Avec son club actuel de Nantes, Camille Aiglon, 1m80, championne du monde et d'Europe en 2017-2018 avec les Bleus, vice-championne olympique en 2016 et dont on perçoit toute la détermination et la force mentale dans ces quelques secondes d'interview juste après un match à Rio, justement, que les Françaises avaient réussi à gagner alors qu'elles étaient largement menées.
Même quand je me suis dit peut-être là ça va être vraiment vraiment difficile, je me suis dit c'est hors de question qu'on sorte de ce quart de finale en ayant pris 10 buts et en n'ayant pas existé dans ce match-là. Donc il fallait tout donner sans calculer et on allait faire les comptes à la fin et j'aime bien faire les comptes à la fin dans ces cas-là.
Et quand on fait les comptes à la fin, bah, ça donne un très joli palmarès en 17 ans de carrière en équipe de France donc, mais aussi en club. Metz qu'on ne présente plus, Nîmes son équipe de cœur, Bucarest habitué au dernier carré de la Ligue des Champions et donc maintenant Nantes depuis 2018. La joueuse a aussi réussi à conjuguer sa carrière professionnelle et sa vie personnelle puisqu'elle est maman depuis 2013.
Bonne fête à elle alors.
Oui,
est-ce qu'on sait ce que Camille Aiglon compte faire après cette retraite de joueuse ?
Oui, elle en parle sur le site de son club de Nantes. Alors, principal projet, se lancer dans l'accompagnement d'athlètes pour les aider à gérer, à placer au mieux leurs revenus afin de leur assurer une stabilité ensuite. Elle dit qu'elle aimerait être celle qu'elle aurait voulu rencontrer il y a une dizaine d'années. Elle utilise aussi son expérience de compétitrice pour les entreprises via des conférences sur le thème, par exemple, culture du collectif et du management des équipes, les enseignements d'une championne du monde. Et puis elle va aussi quand même s'octroyer de grandes vacances bien méritées. Mais avant donc, il va falloir gagner ce match en championnat tout à l'heure avec Nantes contre Paris. Ensuite, son équipe continuera la saison prochaine sans elle, mais sur une dynamique ultra positive puisque à laquelle Camille Aiglon a largement contribué, puisque donc l'équipe de Nantes s'est qualifiée pour la Ligue des Champions en remportant la petite Coupe d'Europe au début du mois.
Esprit Sport par Laetitia Bernard. Merci Laetitia.
Dans le journal d'Alexis Demeyer, le temps de ce dimanche.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Alors c'était parfois frais ce matin, et eh bien ce sera chaud en journée, Jean-Michel Golinski.
Au lever du soleil, il faisait 5 degrés à Épinal et à Charleville, 7 à Reims et Mulhouse, contre 18 à Montpellier, 19 à Nîmes, 21 à 7 et 10 à 15 degrés sur le reste du pays. Aujourd'hui, situation inchangée par rapport à hier, avec le maintien d'un ciel variablement ensoleillé sur la plupart des régions. On notera des grisailles persistantes ce matin sur les Hauts-de-France, des ondées possibles en cours d'après-midi vers Brest, Vannes et Quimper, le déclenchement d'averses en seconde partie de journée des Alpes du Sud à la Corse, avec parfois un coup de tonnerre sur le Mercantour, mais c'est surtout entre les Pyrénées et le Massif central que l'ambiance va devenir lourde et orageuse cet après-midi, dans des températures maximales stationnaires par rapport à hier.
C'était Jean-Michel Golinski.